franceinter.fr.
On avait envie d'être plus respectueux de l'environnement et on a eu connaissance de l'agriculture de conservation. Et on s'est dit, allez, on n'y connaît rien, mais on fonce.
Bonjour à tous. Entre l'agriculture conventionnelle, gourmande en engrais, en produits phytosanitaires, en antibiotiques, et l'agriculture biologique, dont les règles rendent la généralisation complexe, il existe une agriculture raisonnée qui obtient des résultats raisonnables, l'agroécologie, un concept qui date du début du XXe siècle, mais qui est revenu au goût du jour depuis qu'en 2012, le ministère de l'Agriculture en a fait un axe de développement. Le principe général, c'est d'utiliser les ressources naturelles pour produire mieux, sinon plus, et les résultats, y compris économiques pour les agriculteurs qui s'y engagent, sont généralement plutôt satisfaisants. Il est encore bien difficile de quantifier le phénomène, mais son expansion n'est par exemple sûrement pas étrangère au fait que pour la première fois depuis plusieurs décennies, la consommation de produits phytosanitaires a diminué de 2,7% en 2015 en France. Et depuis 2 ans, la consommation d'antibiotiques a, elle, baissé de 20% dans les élevages du pays. Respect des sols, assolement diversifié, utilisation de déchets naturels comme engrais, les possibilités sont multiples. Yves Decamp s'est rendu en Charente-Limousine, dans la région de Saint-Junien, où depuis 2001, un collectif d'agriculteurs, désormais regroupé dans le GI2E, un groupement d'intérêt économique et environnemental, Cendres et Corps, s'est associé à la papeterie industrielle locale. Celle-ci fournit ses cendres résiduelles qui, épandues sur les cultures fourragères, en améliorent la productivité. Résultat, les éleveurs travaillent en autonomie alimentaire.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Qu'est-ce qu'on va faire?
On va commencer par éteindre la clôture. Et puis on va se diriger vers le lot de vaches.
Vous voulez les bouger et les changer de place?
Voilà. Tous les jours, c'est ma routine.
Et pourquoi?
Pour éviter le gaspillage et pour avoir de très bonnes repousses. Les vaches, elles mangent, mais derrière, elles ont un distributeur d'engrais. Et en fait, si vous les mettez sur une grande parcelle, vous allez avoir les bouses toujours au même endroit. Tandis qu'en cloisonnant des petites parcelles, vous avez une meilleure répartition. Et c'est comme ça que j'ai augmenté ma productivité d'herbe au cours des années.
D'accord, elles vous servent à la fois de tondeuse et d'engrais.
Voilà. On est dans un système où les vaches reviennent chaque 30 jours sur la même parcelle. Peut-être elles vont être un peu effrayées, là. Parce que c'est des limousines et les limousines ont du caractère. Doucement, les filles, là. On se calme.
En fait, cette pratique, elle est très ancienne autrefois, non?
Mais oui.
Les parents, ils faisaient ça.
Oui, c'est pour ça que moi, j'ai continué comme faisaient mes parents. Mais c'est vrai que depuis les années 70, ça a beaucoup changé. Parce qu'on est passé dans un système maïs-soja. Mais là, on revient à des systèmes beaucoup plus simples.
Donc vous n'achetez plus d'aliments à l'extérieur?
Non, notre exploitation est autonome à 100%. On travaille avec l'association Cendres et Corps, ce qui nous permet d'avoir des cendres qui sont un déchet en fait, mais qui
sont répandues sur vos pâturages.
Voilà, et qui apportent de la potasse, du CaO, un peu de phosphore. Et ensuite, avec Cendres et Corps, on a des carbonates. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en Limousin, les sols sont très très acides.
Mais ce système-là, cette pratique, elle pourrait être adaptée partout?
Bien sûr, mais on a du mal à la vulgariser en fait.
Mais pourquoi, puisque ça marche?
Bien, moi je crois que les gens ils sont portés plus sur le machinisme que sur les vaches. Nous, sur notre exploitation, toutes les reproductrices sont en plein air intégral toute l'année. Elles ne sont jamais rentrées. Mais ce qui entraîne moins de frais de bâtiment, moins d'achat de paille, moins de frais vétos parce que les animaux sont jamais malades. J'utilise jamais d'antibiotiques en fait. C'est exceptionnel. 1% peut-être. Là encore, j'ai fait un stage d'ostéopathie et je sais les soigner par ostéopathie. C'est un truc que je ne connaissais pas. Il y a eu une formation avec la Chambre d'agriculture. On est allé avec ma femme et après, on a essayé chez nous.
En résumé, ce qui vous permet de maintenir votre exploitation à flot et même de vivre presque mieux qu'avant, si j'ai bien compris, c'est la diminution de vos charges.
Ah oui, oui. Et en fait, avec notre système de charges, on a été bluffé par le résultat.
Vous baissez les charges au niveau du vétérinaire, vous l'avez dit, au niveau des intrants,
oui.
Au niveau des achats d'aliments,
oui.
Au niveau de quoi des bâtiments, puisque vous en avez moins, du matériel.
Parce qu'on ne fait pas beaucoup de culture, et le peu qu'on fait, on le fait en semi-direct, donc ça réduit encore plus les charges.
Donc ce n'est pas la production, la productivité qui augmente, ce sont les charges qui baissent.
C'est ça qui fait le résultat, en fait. J'ai vu des comptabilités de mes voisins. Quand vous voyez les achats d'aliments, si c'est 25 000 euros par an, c'est 25 000 euros de moins de revenus. Il faut passer le rein.
Hein. Ah, pourquoi ils ne font pas comme vous?
Parce qu'ils ont été pris dans ce système, en fait. Et puis, quand vous êtes pris de la retraite, vous n'allez pas changer.
Mais vous étiez pris dans le système et vous en avez changé.
Ah, oui. Mais moi, j'ai toujours été comme ça.
Dans ce GI2E constitué autour des cendres d'écorce, d'où le nom cendre-écorce, ils sont une quarantaine d'agriculteurs, éleveurs ou producteurs à partager l'envie, le besoin de travailler autrement et surtout de partager leurs expériences, ce qui nécessite une coordination. Yann Kemener, vous êtes animateur du GI2E, on dit comme ça, animateur ?
On dit animateur, mais bon, j'ai plusieurs casquettes quand même. Ça peut être technicien, logisticien, mais aussi évidemment animateur. Quoi, voilà.
Alors dans ce GI2E cendre-écorce, donc entre Haute-Vienne et Charente, sur quoi mettons l'accent ? La performance économique, le développement durable, la démarche collective que ça induit ?
Pour nous, l'agroécologie, c'est vraiment les trois performances. Donc on a vraiment l'impression de travailler sur les trois domaines. Grâce aux cendres, on a des sols qui sont plus dynamiques et qui permettent d'implanter des légumineuses. C'est de la protéine dans les exploitations, donc c'est une part de l'alimentation des bêtes. Ça, c'est le volet économique. Et puis après, les cendres nous permettent aussi, avec ces légumineuses implantées, d'avoir plus de biodiversité. Les rotations intègrent de plus en plus de prairies multi-espèces avec des légumineuses ou la luzerne, qui est la plante emblématique du projet. Et du coup, cet allongement de la rotation, à la fois, elle contribue à l'environnement puisque c'est du stockage. Il y a plus de prairies dans les rotations, donc on sait que c'est plus de stockage carbone.
Donc contre le réchauffement climatique,
ouais,
un bon point.
Ouais, un bon point. Et puis sur aussi la préservation des sols, parce que un sol qui est structuré avec de la matière organique, c'est un sol qui est capable de mieux résister à l'érosion. Et on sait que la couche de sol, elle est limitée. Hein. Sur Terre, en moyenne, c'est 70 cm. Donc si on lessive tout ça, ma foi, on n'aura plus à manger dans pas longtemps. Et puis c'est de l'économie, puisque c'est un sol qui vit, c'est un sol qui est capable de produire des aliments... sain, j'allais dire, bon, même si des aliments à disposition et de faire des économies d'achat d'aliments sur les exploitations.
Alors des aliments sains, attention, vous ne supprimez pas les intrants, vous les diminuez, mais vous continuez d'utiliser des produits phytosanitaires.
Oui, alors la logique n'est pas forcément une logique de suppression des intrants, c'est bien une logique de diminution de ces intrants. Surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on a des pratiques d'agriculteurs qui sont de plus en plus raisonnées avec des doses de plus en plus précises, fractionnées. On n'est plus du tout dans l'épandage de masse comme l'agriculture a pu connaître ça il y a une dizaine d'années. Par contre, là où le projet génère une baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est grâce à l'intégration en fait des prairies. Courte durée dans les rotations. On a donc plus de prairies sur l'exploitation. Et la prairie, il n'y a pas d'intervention phytosanitaire dessus. Donc, en ce sens-là, ça contribue bien à une moindre utilisation de produits phytosanitaires.
Bonjour.
Bonjour.
C'est chez vous qu'on va répandre des cendres ?
Oui, dans nos parcelles.
Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Beaucoup d'économies déjà. Au lieu d'acheter des engrais industriels, tout ce qui est en coopérative, qui coûte excessivement cher maintenant, et tout ce qui est pour la qualité des sols, c'est très enrichissant au niveau potasse. Donc c'est un excellent produit, hein, dont nous avons la chance d'en bénéficier. Donc voilà.
Donc c'est combien de fois dans une année il y a un roulement entre tous les agriculteurs ?
On a un plan d'épandage. On épand des cendres, ça revient sur les parcelles une fois tous les 4 ans.
Et ça vous permet donc d'économiser des intrants ?
On n'achète quasiment plus rien en engrais, quoi, ou très peu.
Alors voilà les camions justement, les camions de cendres, qui va donc passer dans la parcelle pour répandre les cendres issus de l'usine des résidus de la papeterie voisine International Paper.
Bonjour Philippe, vous allez bien ?
Très bien, c'est bonjour.
Bonjour,
bonjour. Philippe
Dadémare. Bonjour. Philippe Dadémare, vous êtes le directeur général d'International Paper, ici à Saint-Junien, ou à Saïa plutôt. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette collaboration avec les agriculteurs ?
Cette collaboration, elle s'est installée depuis déjà assez longtemps, et en fait, ça continue à nous installer dans notre territoire. Le site de Saïa, vous le voyez ici, c'est un grand complexe industriel. Il a démarré il y a plus de 120 ans. Et il s'est développé dans cette vallée qui n'est pas du tout une vallée ou une région industrielle. C'est une région très rurale. Et cette histoire ou cette aventure de Cendre et Corps, c'est la rencontre entre la ruralité et l'industrie. Et pour nous, ça nous permet d'habiter encore mieux notre territoire. Et cette terre de Limousin dans laquelle on est, en fait, on en vit, nous aussi. Notre source, c'est une ressource de la terre, c'est la forêt. Et qu'on ait un sous-produit qui permette de contribuer au développement de la ruralité, de l'agriculture ici, c'est forcément quelque chose qui continue à améliorer notre acceptabilité, sachant aussi que notre personnel, il vient d'ici. Donc ce sont beaucoup aussi des familles d'agriculteurs.
Mais vous y trouvez un intérêt économique, malgré tout ?
Pas vraiment, puisqu'en fait, ces cendres, on ne les vend pas. L'intérêt, on va dire, technique qu'on peut y trouver, c'est que si on les valorisait pas de cette façon-là, ce qui serait quand même dommage, elles iraient dans notre centre d'enfouissement technique. Et quelque part, ça limiterait la durée de vie de ce centre d'enfouissement technique qui a encore quoi, une vingtaine d'années au moins d'espace. Donc vous voyez, c'est pas un sujet purement directement économique, c'est quand même plus un sujet développement durable. Donc c'est vraiment dans cette philosophie-là.
Développer une agriculture plus durable, ce n'était peut-être pas le souci premier de tous les agriculteurs engagés dans le GI2E, mais souvent nécessité fait loi. Nous voilà chez Benoît et Marina, 80 bêtes laitières, une exploitation entièrement autonome du point de vue de l'alimentation des bêtes. Vous êtes en pleine traite, on peut bavarder 2 minutes ou...
Oui, pas de problème. J'ai pas tout à fait fini, oui.
Oui. De quelle façon vous vous intégrez dans le GI2E ? Donc vous êtes éleveur laitier en Limousin et Limousin ou Charente ici ?
Charente. Charente-Limousine, on dit.
Charente-Limousine. Et alors, de quelle façon êtes-vous entré dans le GI2E et pourquoi ?
En ce qui concerne surtout l'autonomie protéinique, l'autonomie alimentaire et l'autonomie en protéines, quoi, sur la ration. Alors, ce que ça nous apporte, nous, c'est, pour dire les choses simplement, c'est qu'on n'achète plus d'aliments extérieurs pour nourrir nos animaux, quoi. Voilà. Ça, c'est la chose primordiale. On était encore dans les chiffres hier soir tard et nous, on fait énormément d'économies grâce à nos productions fourragères. Et on a même, à contre-sens un petit peu de ce qui se passe dans l'ensemble, on a diminué un petit peu, on a diminué notre production laitière pour pouvoir justement que la surface qu'on exploite, les terres qu'on exploite, suffisent à nourrir les animaux.
Donc en diminuant votre production laitière, malgré tout, vous vous y retrouvez ?
Oui, on fait plus de résultats, oui. Surtout dans une période où le lait est pas cher. si vous aviez un prix du litre de lait cher, ça serait certainement rentable d'acheter de la nourriture et de produire plus de lait. Mais comme sur 2015, 2016, 2017, vous avez un prix du lait qui est faible, il faut mieux produire moins et pas acheter, quoi. Voilà. Ça, c'est la mélodie de la salle de traite.
On va vous laisser
deux secondes.
Poursuivre.
Hop, là, on finit. On finit la traite. On a gardé un petit peu de lait pour les veaux, qu'on va les faire boire. Et on va sortir tout ce monde-là.
Qu'est-ce que vous leur donnez comme alimentation ?
Eh bien, on va voir ça sur la table d'alimentation parce que justement, on distribue du fourrage, un petit complément à l'auge deux fois par jour. Et là, c'est pas fait, on va aller le faire.
Alors, dans le GI 2E, vous, j'ai bien compris que le premier E, ça marche, mais le deuxième E, l'environnement.
Non, mais de toute façon, moi, je connais pas un agriculteur qui consciemment détruit son environnement. Je ne connais pas un agriculteur qui consciemment maltraite ses animaux. C'est parce que si vous voulez que les sols produisent, il faut bien les traiter. Si vous voulez que les animaux produisent, il faut bien les traiter. Ça, c'est le béaba de la chose. Alors qu'on fasse des erreurs, qu'il y ait eu des erreurs de fait sur les sols, ça, c'est, on en est conscient. Ça, c'est clair et net. Mais l'environnement, de toute façon, il est toujours présent. Dans l'agriculture, l'environnement est toujours présent. Mais il faut suivre aussi les données économiques. Parce que le but premier, c'est quand même d'être là encore dans 3 ans, quoi.
Ernest Sorin, vous êtes le président du GI 2E Sandrécor, en Limousin donc, qui comprend combien d'agriculteurs ?
41 précisément à ce jour.
Et au départ, vous étiez ?
Au départ, nous étions de quoi constituer un bureau 6 ou 7. Quoi. On a rassemblé les collègues agriculteurs et on leur a expliqué la stratégie et... Elle est suffisamment convaincante puisque 41 agriculteurs ont adhéré, nous ont rejoints. On rejoint le GI2E, Sandrécor Agroécologie. Voilà, on arrive dans un lieu où, que j'aime bien, qui représente bien notre région du Limousin avec ses paysages très, très divers, très variés.
Qu'est-ce que vous avez voulu en faire de cet endroit ? Parce qu'on voit des panneaux d'exposition, c'est pour les randonneurs.
Voilà, le carrefour de l'agroécologie se situe sur un sentier pédestre de la commune, là, qui rejoint les communes de Radour-sur-Glane, à celle de Javerda et de Sieux. On a voulu être un peu pédagogue, parce que souvent les marcheurs découvrent l'agriculteur au travail, en particulier certains outils comme les tonnes à désherber, à passer les fongicides, des choses comme ça. On en fait un peu des clichés hein, qu'on nous colle la profession agricole. Je trouve ça un petit peu facile et souvent très injuste. Et on a voulu montrer que comment on travaille, quoi. Voilà. Quand on parle d'environnement et de société, bon, un certain nombre d'agriculteurs vont nous dire « Bah oui, mais c'est pas ça qui nous fait vivre ». Si, parce que si nous ne prenons pas en compte l'environnement, ben nos pratiques sont décriées. On veut absolument rassurer la société sur nos méthodes, nos modes de travail, quoi. Un exemple, passer un pesticide ou un désherbant en plein milieu d'après-midi par 35 degrés, ben, va détruire tous les insectes présents dans la nature, dont les pollinisateurs. Il y a des façons plus correctes de procéder, enfin moins impactantes sur l'environnement. Le produit n'en sera que plus efficace et ben, ne détruira pas les insectes. Voilà.
On va regarder les panneaux. Donc Sandrécor Agroécologie, découvrez l'agroécologie à l'ombre des chênes en prenant le temps d'appréhender les dimensions économiques, environnementales et sociétales. Vous vous êtes quand même mis en photo hein, sur le
sur le panneau.
Oui, bon, ben, ça c'est le fruit d'une réflexion de groupe. Pourquoi pas, on se cache pas, voilà, c'est tout. Bon, peut-être que ça sera tagué par des marcheurs, on fait jamais l'unanimité. Mais bon, ben, peut-être qu'on aura des petits mots de compliments aussi, c'est ce qu'on espère. Je crois qu'on a, dit l'essentiel, là, quoi.
Pour les adeptes de l'agroécologie qui font vivre leur exploitation en préservant la nature, changer l'image du métier passe aussi par l'apiculture, à laquelle ils ont décidé de se former auprès d'un maître apiculteur.
Bonjour à tous.
Il y a combien d'agriculteurs qui sont intéressés
sur votre projet? Il y a 4 agriculteurs, exactement.
Alors pourquoi vous vous êtes lancé dans l'apiculture, Ernest?
Ben parce que j'ai toujours eu quelques ruches et puis en réfléchissant sur mes pratiques, je me suis dit qu'avec le développement des légumineuses, des cultures à fleurs, on avait un environnement favorable pour accueillir et nourrir les abeilles. Et bon, j'ai découvert qu'il y a des périodes de l'année où les abeilles ne trouvent pas suffisamment à manger dans la nature. Je me suis dit, bah, peut-être qu'on peut faire quelque chose.
Voilà. Mais il y a quand même à long terme un intérêt pour l'agriculture.
Ça permet de perpétuer la biodiversité, ouais.
Oui. Ben, les rendements, on dit qu'ils sont de 10 jusqu'à 20% supérieurs si la culture ou la production a été bien pollinisée.
Oui, tout à fait, oui.
Donc oui, il y a un intérêt économique évident.
Il n'y a plus rien alors. C'est un peu plus faible, c'était ça.
Ah, comment elles vont ces ruches là?
Bah écoutez, ça a l'air d'aller. Hein. Les abeilles vont butiner. Voilà, il faut que les saints y profitent.
Alors Franck, pourquoi vous êtes lancé dans l'apiculture là? Vous avez installé 6 ruches sur votre exploitation, pourquoi?
C'est pour essayer de démontrer un peu que l'agriculture raisonnée telle qu'on la pratique aujourd'hui sur l'ensemble des exploitations agricoles en France, que l'apiculture peut très bien vivre aussi sur nos exploitations sans aucun souci, malgré qu'on utilise des produits phytosanitaires et non des pesticides.
Tu dis aussi que quand même le colza tu ne traites pas depuis déjà
plusieurs années. Enfin, je le traite au minimum. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, on ne fait plus d'insecticides. Au moment de la floraison, on implante un colza qui fleurit beaucoup plus tôt et qui nous attire les mini-jettes. C'est un petit ravageur noir qui a tendance à venir manger les boutons floraux et qui nous pénalise au niveau du rendement. Mais en fait, après, cet insecte, quand le colza est en fleur, il fait comme l'abeille, il devient un insecte pollinisateur. Donc en fait, en faisant ce colza qui fleurit beaucoup plus tôt, on évite les insecticides.
La rotation des cultures, l'assolement diversifié, l'autonomie alimentaire des élevages, l'agroécologie, c'est tout cela, et c'est beaucoup plus encore. Dans l'Yonne, au nord d'Auxerre, un collectif d'agriculteurs s'est constitué en CEP, société en participation, pour se lancer dans l'agriculture de conservation des sols.
Bienvenue à la CEP de Bord. Donc Thierry Desvaux, donc on est dans les locaux de la CEP, le bureau. Et puis si vous voulez bien, je vais vous emmener visionner un petit peu du haut de Bligny, du village, pour voir un petit peu tout le parcellaire, et puis surtout voir un petit peu la complémentarité entre la forêt, le ruisseau, la rivière, et puis la diversité de notre assolement. C'est très joli en ce moment.
Allons-y.
Alors la CEP de Bord a été labellisée GIE2E, mais c'est avant tout un groupement de 4 exploitations voisines avec 5 agriculteurs, dont 2 éleveurs, mais la partie élevage n'est pas intégrée dans l'assolement commun. Donc la spécificité, c'est on est en agriculture de conservation des sols, et donc on minimise le travail du sol, voire on le supprime totalement, pas de labour. Et puis on couvre le sol en permanence, et on amène beaucoup de diversité, donc beaucoup de diversité dans les cultures, beaucoup de diversité entre les cultures. On sème des plantes qui vont nous servir à alimenter la culture suivante. Et là, tout à l'heure, je vais vous montrer, on est en train de semer du tournesol avec de la luzerne. Et l'objectif, c'est de garder la luzerne pendant 3 ans, sans la détruire, simplement en la restituant au sol par un broyage. Et puis on va ressemer l'année suivante de l'orge et l'année suivante du blé. Donc, on appelle ça une couverture permanente. On est dans un processus de valoriser un petit peu le fonctionnement des écosystèmes. Aujourd'hui, on a d'excellents résultats, on a très bonnes analyses biologiques, on a une activité microbienne qui est très intense, et puis c'est dû justement à ces techniques de pas perturber le sol.
Vous dites que vous avez d'excellents résultats biologiques, mais économiques.
Économique, oui, c'est très net. Hein, surtout cette année, vous savez, la récolte 2016 a été très problématique dans l'ensemble de la France. Et nous, malgré tout, on a sorti un très bon résultat. C'est dû au fait qu'on a beaucoup moins de charges de structure. Hein, donc, c'est des charges de mécanisation, beaucoup moins de carburant. On est à moitié de carburant de quelqu'un qui travaille le sol. Et puis, beaucoup moins de chimie. Cette année, on fait zéro insecticide, on fait très peu de fongicides, on désherbe encore un petit peu, et puis beaucoup moins d'engrais parce qu'on introduit des légumineuses, et puis on valorise aussi les effluents organiques qui sont issus des élevages de nos associés et des élevages voisins. Donc on a du fumier de volaille, du fumier de veau, du lisier de porc, et là on s'intéresse aussi aux déchets verts de la communauté de communes.
Donc la production a diminué globalement par rapport à une agriculture conventionnelle, mais vous avez baissé les charges, c'est comme ça que vous vous y retrouvez.
La production n'a pas diminué. Elle a diminué dans un premier temps, les premières années, où on remplace le travail mécanique du sol par une activité biologique. Il faut le temps que s'installent les vers de terre, que s'installent des champignons, pour que le sol fonctionne bien. Donc les deux premières années, on a perdu en production de céréales, et puis ça s'est rétabli, on a été à peu près équivalent à ce que produisent les voisins. Et aujourd'hui, surtout en condition lorsqu'il y a des aléas climatiques, on est plus résilient. C'est-à-dire que cette année, on a produit plus de céréales que les voisins, donc c'est encourageant. Mais globalement, on ne cherche pas à produire plus. La production, ça ne veut rien dire. Donc là, je vais vous emmener dans un endroit stratégique où on voit l'ensemble de l'exploitation, hein, comme ces quatre fermes voisines. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on aperçoit au loin la forêt, de l'autre côté la rivière. Et entre les deux, on a un corridor écologique qui est le ruisseau, qui est bordé d'arbres, qui est sinueux. Et puis on est en train d'implanter des haies. Et on essaie justement de faire un maillage entre la forêt, la rivière, le ruisseau, pour que ce corridor-là soit efficace au niveau de la protection de certains ravageurs. Notamment, on a besoin de beaucoup de carabes. Les carabes, c'est une bête noire là, qui dévore les limaces. Et dans notre système de non-labour, on a un peu plus de limaces que dans un système traditionnel. Et donc, il faut favoriser les auxiliaires. Et là où on arrive, hein, c'est un point de vue dominant, on voit, je pense, 90% de nos parcelles. Et vous allez pouvoir voir la diversité justement par les couleurs des différentes cultures.
Ah oui, effectivement.
C'est chouette, hein ? Donc voilà, on arrive à un point que j'aime bien. J'aime bien venir me promener là avec la famille. Et on voit qu'il y a différentes couleurs. Donc les champs plus clairs, vert clair, c'est des champs d'orge. Foncé, c'est du blé, du colza. Là-bas, on aperçoit le chanvre. Et ça commence à verdir. Et puis, les pois, c'est le vert qui est très tendre là-bas. Donc, ça fait une diversité visuelle. Donc, on place les haies de façon judicieuse pour qu'elles ne nous gênent pas avec notre matériel. Et puis, au départ, on trouvait ça un petit peu simplement pour le coup d'œil. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une réelle fonctionnalité d'implanter des haies dans nos parcellaires.
C'est le retour en arrière, hein, quand vous pensez qu'autrefois on les a taillés, oui. On les a enlevés.
Ben moi je l'ai fait, hein, avec papa, on a arraché des arbres, on a arraché des haies. Et voilà, j'ai 57 ans et je me remets à planter des haies. J'ai un projet agroforesterie, donc on va replanter des arbres. Mais on a encore besoin de tracteurs pour semer, on a encore besoin de moissonneuses pour récolter. Donc c'est quand même du gros matériel, donc on garde quand même des surfaces suffisamment intéressantes qui soient compatibles avec notre marque de matériel. voilà les élèves du lycée agricole. Donc ils viennent pour qu'on leur fasse un petit topo sur l'agriculture de conservation. Bonjour. Ça va?
Bonjour.
Vous êtes en quoi?
BTS APV.
À la BTS?
Agronomie, production végétale.
Au lycée d'Auxerre.
Donc, eh ben, bienvenue à la CEP de bord. On a beaucoup de choses intéressantes à vous montrer. Ouais. On a fait un profil de sol et puis on va aller voir un petit peu le fonctionnement de l'activité biologique, le rôle des vers de terre. Et puis, voir que ça se passe pas si mal que ça. On voit de l'enracinement, même en profondeur. Donc on peut y aller si vous voulez. Donc un profil de sol, c'est un trou qu'on fait, le plus profond possible. Donc ça peut être 1,50 m ou 2 m. Ça permet déjà de voir beaucoup de choses intéressantes. Et en fait, c'est très pédagogique, quoi, hein. C'est important de voir la terre, de toucher la terre, quand on parle d'un sol vivant. Donc on descend dans le profil. Essayez de ne pas glisser, hein. Il a plu un peu ce matin. Je vais prendre une bêche, quoi, une pioche, pour vous montrer un petit peu cette activité du sol. On va essayer de trouver des vers de terre. Donc là, on entend les silex dès que j'arrive un petit peu plus bas. Ah bah là, regardez, oh là, regardez celui-là. Oh là là, il est énorme. On va essayer de l'attraper. Donc vous savez quel vers de terre il s'agit? Un gros comme ça, comment ça s'appelle?
Anésique.
Et l'anésique, lui, son rôle, tiens, le voilà, c'est de faire des galeries verticales. Il va chercher de la matière organique en surface, qui mélange avec la partie minérale, avec l'argile, et il rejette des turricules, hein, c'est des éjections, et c'est ça qui donne une bonne structure à un sol avec une bonne activité biologique. Donc c'est pour ça qu'on dit que le vers de terre, c'est un bon indicateur de la vie du sol. Donc le vers de terre, lui, surtout le gros, là, l'anésique, il fait un travail vertical. Et il passe toujours dans les mêmes galeries. Et donc, si jamais on passe la charrue, on détruit ces galeries-là. Et le fait de les détruire, ça perturbe l'activité des vers de terre. Ils doivent reconstruire de nouvelles galeries. Pendant ce temps-là, ils ne mélangent pas la matière organique avec la partie minérale. Donc c'est pour ça, le principe, un sol, c'est comme, j'aime bien cette expression-là de Konrad Schreiber, qui est un agronome à l'Institut d'agriculture durable, qui dit que le sol, c'est comme une maison, avec un toit. Un toit, ça sert à protéger ses habitants. Et donc, si on bouleverse la maison, si on la retourne, elle n'a plus de sens. Et une fois qu'on a compris tout ça, sincèrement, on n'a plus envie de le bouleverser, quoi, hein. On se demande pourquoi détruire tout ce que la nature, elle construit.
Vous avez des questions, vous êtes convaincu?
Jusqu'à maintenant, l'agriculture de conservation, c'était pas tellement connu, on n'entendait jamais parler. On voyait souvent des agriculteurs qui vivaient encore, on va dire, sortis de la guerre, c'est-à-dire produire en quantité, mais sans se soucier un peu des facteurs de production. Donc, pour moi, l'agriculture de conservation, c'est un mode de système de culture alternatif entre le bio et le conventionnel, qui est très intéressant, parce qu'on a les mêmes capacités de production d'un conventionnel, tout en préservant les facteurs de production et en respectant la biodiversité et l'environnement.
Vous êtes sensible à ça, à respecter l'environnement de plus en plus? Vous y êtes sensible?
Oui, c'est une chose qui est extrêmement importante dans l'agriculture de nos jours, parce qu'on arrive à la fin de l'utilisation des produits phyto, il y en a qui sont plus du tout efficaces, donc il faut trouver des méthodes alternatives, et on a remarqué que en faisant attention à la vie dans le sol, ben on arrive à baisser ces quantités de produits utilisés.
On a très bien compris l'intérêt de ce système de culture. Après, ça ne veut pas dire qu'on est forcément écologiste. C'est juste prendre en compte, parce que c'est des êtres vivants dans le sol, et travailler avec eux, et ce qu'on ignorait jusqu'à présent, quoi.
Oui, mais enfin, votre objectif, c'est de gagner votre vie avec c'est votre métier. Donc, la performance économique, ça compte.
Ça compte, mais Monsieur Devaux nous a démontré que c'est un système de culture qui produit autant qu'un conventionnel.
Donc, puis avec des charges de mécanisation en moins, des intrants en moins, donc une marge forcément plus grande qu'un conventionnel.
Au lycée, vous êtes sensibilisé. Maintenant, obligatoirement, il y a des... on vous incite à vous diriger vers ce type d'agriculture ?
On ne nous incite pas forcément, mais on va nous présenter tout type d'agriculture. On ne va pas nous dire faut faire ci, mais on va nous dire ça, c'est bien pour tel avantage, mais il y a tel inconvénient, et ça va être bien pour tel avantage, mais il y a tel inconvénient. Et c'est grâce à des visites qu'on a sur le terrain avec des professionnels que chacun se fait son opinion.
Je voulais regarder un petit peu les galeries de vers de terre, les... jusqu'où descendent les racines du blé. Pourtant, le blé, c'est pas une racine pivotante. Hein. Après, dans une poignée de terre comme ça, il y a combien d'individus ?
Un million.
Par là.
Il y en a 7 milliards. 7 milliards, ça vous rappelle quoi ?
Si on est sur Terre ?
Et voilà, voilà. Vous vous rendez compte ? On a une poignée de terre. Donc c'est majoritairement des bactéries, des champignons et puis d'autres insectes. Donc ça, on a la charge, on a le rôle de les protéger, de les nourrir, de leur laisser de l'air aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui ont besoin de respirer. Donc avoir une bonne structure de sol qui permette l'épanouissement de cette activité biologique. Et je vais vous montrer, on a de très bonnes analyses biologiques qui ont été faites en laboratoire, qui montrent qu'on a une forte biomasse microbienne, une bonne activité microbienne, qui permet de bien valoriser le stock d'humus, hein, de matière organique qu'on a dans le sol, qui va permettre de nourrir mieux les plantes. Donc on est vraiment dans ce système... ce cycle vertueux hein, qui est de produire, de consommer, de recycler. Et le recyclage, c'est un petit peu ce qui manque dans le raisonnement de toute notre société. Et on peut l'élargir même à des domaines qui ne sont pas agricoles. Et même hein, l'odeur de la terre, quand elle est pas, quand elle est riche en matière organique, elle fait un petit peu plus l'humus. Hein, pas tout à fait comme celle de la forêt, hein, mais il y a quand même des similitudes.
Je m'appelle Dominique Marle, je suis enseignante en agronomie. Sur le lycée, il y a une exploitation agricole qui est annexée.
Oui.
Hein,
mm-hmm.
Lycée. Voilà. Alors, c'est une exploitation où il y a polyculture et élevage, donc élevage ouais. laitier, et il y a 6 hectares de vignes. Donc il y a un grand changement. Depuis, ben, ça va être en mai, puisque finalement, il y a une partie de l'exploitation qui va passer en agriculture biologique.
Pourquoi ça ?
Bien, disons qu'on a déjà eu une expérimentation depuis 10 ans qui a porté sur ce qu'on appelle l'agriculture intégrée. Donc en fait, l'agriculture intégrée, on avait déjà commencé à réduire les intrants, aussi bien les intrants en produits phytosanitaires qu'en engrais azotés. Et ben, je pense que voilà, on a essayé de franchir le pas, d'aller un peu plus loin que la production intégrée, quoi, aller en production biologique. Il faut, je pense que maintenant, au niveau agricole, on n'a pas à convaincre les élèves. Hein, il faut qu'on leur montre des choses, qu'on leur montre qu'il n'y a pas une seule façon de produire. Il n'y a pas que la production en conventionnel classique. Et c'est ce qu'on cherche à faire par des visites aussi, leur montrer, ben voilà, comme chez à la cèpe de bord, là, bon, ben, ils ont arrêté le labour, ils essayent de baisser les intrants. Donc au lycée, voilà, on a essayé aussi de baisser les intrants. Et puis là, bon, ben, on va se lancer un grand défi, quoi, c'est partir sur l'agriculture biologique. Je pense qu'il ne faut pas imposer un système, quoi. Il faut. Il y a plusieurs voies possibles, quoi, de réduction d'intrants, alors, ou aller jusqu'à zéro intrant chimique, mais je pense qu'il y a la place pour différents types d'agriculture, quoi. À chacun, effectivement, en fonction aussi de son sol, en fonction du territoire, de l'environnement, à chacun de trouver le type d'agriculture qu'il est adapté, quoi, finalement.
Si l'agriculture biologique, depuis longtemps soutenue, connaît un grand succès ces dernières années, l'agroécologie, dont elle fait partie, reste un choix que les agriculteurs doivent assumer seuls. Pas toujours évident. Retour à la cèpe de bord de Bligny-en-Othe.
C'est où l'entrée, c'est là ?
C'est là, c'est un petit trou d'homme.
D'accord.
On reste à la vue.
Donc là, on arrive dans le... dans un silo.
Ouais, c'est le stockage.
Stockage de grains.
On stocke toutes les, la plupart des cultures, en fait. Les cultures principales.
Ah oui, alors faut escalader.
Hop là.
Il y a une poignée à l'intérieur, juste en haut.
Ok. Ça résonne.
Ouais, c'est ça.
Donc nous voilà à l'intérieur du silo. Donc vous, Stéphane, vous occupez de quoi plus précisément ?
Alors, c'est très varié, moi, à la CEP. C'est surtout tout ce qui est bureau, on va dire, tout ce qui est paperasse. Ensuite, un petit peu de logistique et puis les silos, le suivi des stocks, le déstockage. Donc là, on est dans un silo de 600 tonnes de blé, en fait, en équivalent. Donc on en a 6. Et on le vide à cette époque-là. Encore hier, je viens de vider une cellule que d'orge, en fait. 15 semi-remorques qui sont passés dans la journée. Voilà. Pour l'instant, on n'a aucun débouché qui nous donne une plus-value sur nos produits.
C'est-à-dire que vous vendez au même prix que les agriculteurs conventionnels.
Voilà, c'est ça. Nous, on n'a aucune valorisation. On ne gagne pas un centime de plus, même si on a entretenu nos sols, des choses comme ça. On n'a aucune reconnaissance sur nos produits, en fait. C'est ça l'inconvénient pour l'instant de ça. On est pionniers et on n'a rien encore de défini.
Voudriez qu'on vous reconnaisse le mérite de préserver les sols, de développer une agriculture durable. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, c'est d'être plus respectueux de l'environnement, de stocker le carbone, de mettre moins de pesticides, on va dire. En général, moins de fongicides, moins d'insecticides. Rien que dans les silos, ici, tous nos stockages sont avec zéro insecticide dans l'année. On a un grain quasiment propre, sain, qui sort de nos cellules ici.
Alors Thierry Deveau, comment vous est venue alors cette envie ou ce besoin de changer vos pratiques ?
Bah, c'est avant tout une aventure humaine parce qu'il y a une dizaine d'années, j'étais un peu là de travailler seul. Je travaillais déjà avec un voisin et puis on a décidé de mutualiser un peu plus notre matériel. On a sollicité nos voisins pour travailler avec nous. Donc au départ, il y en a 9 qui étaient intéressés, puis 7, 6, et on a fini à 5 agriculteurs.
Alors ce qui est très particulier, c'est que tout est mis en commun.
Oui.
C'est comme si vous aviez fusionné en quelque sorte.
Voilà, c'est un genre de fusion, de mise en commun, assolement en commun. On partage le même parc de matériel, on achète les quelques engrais, produits de traitement ensemble. L'huile pour les tracteurs. Quand on commercialise tout ensemble. En fait, on a reconstitué une ferme qui fait un peu plus de 600 hectares et on la gère comme une seule entité.
Alors ça demande à bien s'entendre entre vous.
Alors ça, c'est le point crucial, mais on a senti dès le départ que c'est là-dessus qu'il fallait travailler. Donc on a fait des formations en relations humaines avant de créer notre groupement. On a passé un an en réunion à apprendre à se connaître, à se découvrir. On avait envie d'être plus respectueux de l'environnement. On avait envie de répondre aux attentes sociétales. Ce changement climatique, quoi. Est-ce que l'agriculture n'a pas un rôle à jouer ? La qualité de l'eau. On est dans un bassin de captage, donc il faut respecter la qualité de l'eau. Et on a eu connaissance de l'agriculture de conservation, donc en 2008. Et on s'est dit, allez, on n'y connaît rien, mais on fonce.
Et vous étiez en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire avec le maximum d'intrants.
Oui, ça fonctionnait bien. Hein. J'étais au point techniquement, hein, donc je travaillais le sol profondément. J'utilisais 100 litres de carburant, maintenant on est à 50 litres. Et puis pas mal de chimie, parce que la recette marche. Mais je me disais, voilà, ce serait bien de faire autrement. Et moi, dans ma tête, c'était... J'ai vraiment eu du mal à comprendre ça. Et puis, de plus travailler le sol, mon père a travaillé, a labouré. Moi j'ai labouré. Et d'un seul coup, j'apprends à respecter le sol. C'est pas facile.
Et vous avez eu des aides. Vous avez dit que c'était difficile au début. Il y avait fallu une période de transition.
Pour la transition à l'agriculture de conservation, malheureusement, il n'y a aucun soutien. Seule la conversion à l'agriculture biologique est soutenue. Donc c'est un petit peu difficile économiquement, moralement, les premières années, parce qu'on se demande où on met les pieds. Et le fait d'être en groupe, ça c'est ce qu'a fait un petit peu notre force. On accepte les premières difficultés, on a fixé un cap, un objectif, on voulait produire mieux ensemble. Et au bout de la troisième, quatrième année, ça s'est à peu près rééquilibré. Et aujourd'hui, on ne fera pas marche arrière.
On vous sent passionné, et d'ailleurs, c'est une passion que vous essayez d'inculquer aux étudiants du lycée agricole. Quel serait votre rêve, l'agriculture française, dans plusieurs décennies? Ce serait quoi? Une France entièrement bio ou une France en agriculture simplement raisonnable?
Si elle pouvait être bio en produisant en quantité, en qualité, en respectant totalement la nature, bien sûr, je signe. Aujourd'hui, l'agriculture de conservation nous permet de diminuer beaucoup la chimie, diminuer les engrais, à maintenir un niveau de production équivalent à celui du conventionnel, avec moins de charges, donc avec un meilleur résultat économique. Et cette année, c'est vraiment très impressionnant, quoi. C'est vraiment une très mauvaise année agricole, et nous, on a sorti un bon résultat, et ça, c'est ô combien serein. On est plus serein.
Plus verte et plus économe, l'agroécologie trace son sillon. C'était un reportage d'Yves Decamp, prise de son Frédéric Kérou, mixage Basile Beaucaire, réalisation Audrey Ripouille, assistée d'Elisa Mchin et Zora Bensmaïli. À la semaine prochaine.